Chers frères et sœurs, prêtres, diacres, consacrés, fidèles laïcs, qui êtes rassemblés nombreux dans cette cathédrale, Sainte-Marie de Bayonne, et vous tous qui nous rejoignez en direct sur les ondes de Radio Lapourdie. Nous aimons nous retrouver tous ensemble, dans la diversité de nos états de vie et de nos ministères, le jour de la messe chrismale où nous célébrons l'onction de l'Esprit-Saint, qui a fait de nous tous des chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui appartiennent au Christ et qui constituent ensemble son corps. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, à la fois le moi de Jésus et le moi de son corps, qui est l'Église. À travers les bénédictions des saintes huiles, l'onction de l'Esprit-Saint nous renvoie ce soir à diverses réalités existentielles vers lesquelles nous voulons orienter notre regard dans l'action de grâce. En premier lieu, l'huile des malades, qui nous renvoie à tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, et qui participent de plus près à la passion de Jésus, complétant dans leur chair, comme dit saint Paul, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Nous pensons aux malades sans doute, mais aussi à tous les affamés et assoiffés de justice, aux victimes de la violence et des guerres, aux victimes d'abus sexuels, aux persécutés, aux opprimés, à tous ceux qui ont le cœur brisé. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance et aux prisonniers leur libération. À travers ces signes, issus de la création, avec lesquels Jésus a institué les sacrements, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui nous touche et qui nous guérit. L'huile est en effet symbole de consolation et de force. Par l'onction des malades, Jésus vient non pas supprimer ou expliquer la souffrance, mais la remplir de sa présence, comme disait Claudel. Quelle grâce pour un prêtre de donner ce beau sacrement de l'onction des malades, une caresse de l'Esprit-Saint qui permet précisément aux malades de faire l'expérience de la bonté et de la puissance de Dieu se manifestant dans leur faiblesse. Nous prions pour tous les malades que nous connaissons, pour ceux qui sont seuls et parfois angoissés ou découragés. En ces temps où un nouveau projet de loi devrait prochainement être discuté au Parlement pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, nous voulons résolument être du côté de l'aide active à vivre plutôt qu'à mourir. Nous appelons solennellement ceux qui nous gouvernent, les parlementaires et les soignants, à un sursaut de conscience. Donner la mort n'est jamais un soin. Les malades en phase terminale nous demandent, parfois de manière paradoxale, de prendre soin d'eux. Ils attendent que nous leur manifestions, par notre compassion concrète, que leur vie a toujours de la valeur, qu'elle est précieuse aux yeux de Dieu. Ils attendent que nous les soulagions et que nous les aidions à donner un sens à leur souffrance. Et en dernière analyse, nous savons, nous, que c'est la perspective de la vie éternelle qui donne un sens ultime à la fin de vie. Nous voulons rendre grâce aujourd'hui pour tous ceux qui accompagnent les malades, et en particulier pour ceux qui les visitent au nom du Christ. Je pense aux équipes d'aumônerie dans les centres hospitaliers et autres établissements de santé, aux hospitaliers de notre hospitalité basco-béarnaise, aux membres du service évangélique des malades, aux personnes qui sont engagées dans la pastorale des personnes handicapées. N'hésitez pas, chers frères et sœurs, à proposer la visite et le ministère de compassion du prêtre. Comme nous dit saint Jacques, si l'un de vous est malade, qu'il appelle les prêtres de l'Église. Ils prieront sur lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, et cette prière inspirée sauvera le malade. L'huile des catéchumènes nous renvoie ensuite aux catéchumènes adultes, jeunes pour la plupart, qui vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne lors de la prochaine vigile pascale. Ils constituent un grand motif de joie et d'espérance pour nous tous. Ils ne sont pas freinés par les scandales qui défigurent hélas le visage de l'Église. Ils n'ont pas de préjugés sur l'Église et sur ses ministres. L'huile des catéchumènes leur fait prendre conscience que c'est Dieu lui-même qui est venu à leur rencontre. Ils découvrent qu'avant même leur démarche personnelle, où ils expriment leur inquiétude de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est inquiet d'eux, de toute éternité, et qui s'est mis à leur recherche pour en faire ses élus. L'huile des catéchumènes, c'est à la fois l'huile de l'élection et l'huile de la force dont ils ont tant besoin pour le combat spirituel, le combat contre l'ennemi de la nature humaine qui enrage de les voir s'approcher du Christ pour être libérés de l'esclavage, du péché et des idoles. Le temps du carême, chers frères et sœurs, nous a rappelé à nous aussi que nous sommes toujours des catéchumènes. Aussi pourrions-nous nous interroger honnêtement à la veille du Triduum pascal. Sommes-nous encore inquiets de Dieu ? Ou bien sommes-nous résignés à son apparente absence et à nous appuyer sur nos seules forces humaines ? Reste le Saint-Crème, le meilleur pour la fin. Ce mélange d'huile d'olive vierge et de parfums précieux qui renvoie aux onctions caractéristiques de l'Ancienne Alliance, onctions sacerdotales et royales que Jésus a pleinement assumées en s'attribuant devant les Juifs de Nazareth médusés l'oracle messianique d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, dit Jésus, aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Le Saint-Crème que je vais consacrer, que nous utilisons surtout pour la confirmation et pour les ordinations. Comme le dit saint Jean dans l'Apocalypse, par l'onction du baptême et de la confirmation, Dieu fait de nous un royaume et des prêtres. Nous sommes du Christ. Nous appartenons à son royaume. Nous sommes ainsi devenus des citoyens du ciel, appelés à la vie éternelle. Cela ne nous dispense certes pas d'assumer nos responsabilités sur la terre. Mais précisément cela nous oblige à inaugurer le royaume des cieux ici-bas, en organisant la société et l'Église de telle sorte que les hommes puissent orienter toute leur existence vers le ciel, vers la vie éternelle. La vie théologale, chers frères et sœurs, qui trouve sa source en Dieu et qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive, est le vrai régime de la vie chrétienne. Celui qui a rencontré Jésus-Christ a reçu la grâce de l'Esprit-Saint qui imprègne toute sa vie de connaissance et d'amour. La vie théologale grandit, s'approfondit au contact de la parole de Dieu et des sacrements. Elle s'exprime premièrement dans la prière, puis dans l'action, qui n'est en fin de compte pour le chrétien que le débordement de la prière. La vie théologale change aussi notre regard sur l'Église. Nous la voyons dans son orientation fondamentale à la vie éternelle et non plus selon nos catégories trop humaines, notre sensibilité, nos opinions, nos limites culturelles, nos susceptibilités, source de nos divisions et de nos conflits perpétuels. Alors nous sommes appelés à édifier l'Église, non pas à partir de nous-mêmes, mais à partir du nouveau fondement que la foi donne à l'homme et sur lequel nous devons d'abord nous appuyer, c'est-à-dire Dieu lui-même. Sinon, nous risquons fort de nous exposer à de cuissants échecs, source d'amertume et de ressentiment. Que le Seigneur nous garde de l'amertume et du ressentiment. Chers frères et sœurs, vivons-nous vraiment au niveau de cette vie théologale de foi, d'espérance et de charité, reçue au baptême et à la confirmation par l'onction de l'Esprit-Saint. Par le baptême et la confirmation, nous sommes encore habilités à exercer une fonction proprement sacerdotale pour le monde. Nous sommes tous appelés à conduire les hommes vers Dieu, à être les témoins de ce Dieu d'amour qui est mort pour tous, pour que tous aient la vie, comme le dit Jésus. Comme l'écrivait Benoît XVI, je cite, « Ouvrons-nous aux hommes l'accès à Dieu, ou plutôt ne le cachons-nous pas ? Ne sommes-nous pas, nous, peuple de Dieu, devenus en grande partie un peuple de l'incrédulité et de l'éloignement de Dieu ? N'est-il pas vrai que l'Occident, les pays centraux du christianisme, sont fatigués de leur foi et, ennuyés de leur propre histoire et culture, ne veulent plus connaître la foi en Jésus-Christ ? Nous avons raison de crier vers Dieu en cette heure. Fais que nous ne devenions pas un non-peuple. Tu nous as oint de ton amour. Tu as posé ton Esprit Saint sur nous. Fais que la force de ton esprit devienne à nouveau efficace en nous, pour que nous témoignions avec joie de ton message. » Fin de citation. Et vous, chers frères prêtres, qui allez rénover les promesses de votre ordination sacerdotale, vous avez été choisis parmi tous les baptisés pour être configurés au Christ, tête et pasteur de l'Église, par le sacrement de l'ordre. Vos mains ont été ointes de Saint-Crème pour que votre humanité, dont vous connaissez bien les faiblesses, les infidélités, les capacités de trahison, soit toujours apte à poser des actes qui excèdent infiniment vos capacités humaines. Faire de toutes les nations des disciples en prêchant l'Évangile avec l'autorité même du Christ. Célébrer les sacrements in persona Christi capitis, dans la personne du Christ tête, en particulier consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, donner en nourriture au peuple des fidèles et pardonner les péchés, conduire la portion du troupeau qui vous est confiée avec la charité pastorale du Christ vers la vie éternelle. Laissez-moi pour conclure insister sur cette charité pastorale qui consiste à conduire le peuple de Dieu et à le rassembler dans l'unité. Dans le contexte actuel marqué par le relativisme moral et l'indifférentisme religieux, garder fidèlement la foi catholique reçue des apôtres nous expose à toutes sortes de rejets, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Nous nous lamentons à juste titre des divisions qui déchirent parfois le corps ecclésial et nous souffrons de voir tant de brebis dispersées. Dans ces conditions, comment rassembler le peuple de Dieu ? Jésus lui-même nous en montre le chemin. Lui-même a connu le rejet de son peuple, comme nous allons le commémorer, en particulier le Vendredi Saint. Eh bien, quelle attitude a-t-il opposée à la violence dont il a été l'objet ? Devant ce déferlement de haine et d'agressivité, l'attitude de Jésus fut celle de la douceur et de l'humilité. Il ne tint pas tête aux méchants. Mieux, il a présenté son dos à ceux qui le frappaient et ses joues à ceux qui lui arrachaient la barbe, et il savait qu'il ne serait pas confondu, car au Seigneur, il avait remis sa cause. Nous aussi, chers frères prêtres, nous sommes invités à suivre l'exemple du Christ vrai et bon pasteur de son peuple, non pas en accusant les autres, ni en nous justifiant nous-mêmes, mais en offrant notre vie pour ceux-là même que nous considérons, à tort ou à raison, comme nos ennemis. Jésus regarde les méchants comme les bons, comme des âmes à sauver. Il offrira même sa vie pour eux de manière privilégiée, en sacrifice d'expiation sur la croix, et c'est ainsi, et pas autrement, qu'il rassemblera de toutes les nations ses brebis dispersées. Rappelons-nous, chers frères prêtres, les paroles de l'évêque au jour de notre ordination, alors qu'il nous transmettait le calice et la patène. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Puissions-nous donc puiser notre charité pastorale à toute épreuve, à la source du sacrifice eucharistique qu'il nous est donné de célébrer quotidiennement, pour devenir nous-mêmes Eucharistie et donner notre vie pour nos frères, jusqu'à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Le peuple de Dieu attend ce témoignage de nous. Confions-nous particulièrement à l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Qu'elle nous accompagne, qu'elle nous conduise d'une main sûre à la suite du Christ, dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Amen.